Vous êtes bien sur Radio Rôliste, et ce soir, nous interviewons Pierre Saliba, aka le docteur Nemrod. Bonsoir, ici Lamson. Ce soir, je suis en compagnie de Pierre Saliba, auteur de jeux de rôle, pour parler de son processus créatif et de son jeu en cours de full lancement, la collection Max Brown, à paraître aux éditions 2D Sans Face. Bonsoir docteur.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Et je suis aussi en compagnie d'Antoine, un revenant que vous avez entendu il y a fort longtemps sur ces ondes et qui fait partie des fondateurs de 2D Sans Face.
Bonsoir, je suis un revenant. Ouh.
Ça fait peur. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut dire que on est en train, enfin, je suis en train, moi tout seul, un contre deux, de faire une interview d'un auteur et de son éditeur?
Oui, alors on peut, oui, effectivement. Alors, je m'occupe aussi de la partie édition pour ce projet, effectivement, mais on est finalement Antoine et moi les deux. Dans le monde de l'édition, Antoine depuis bien plus longtemps que moi, pour dire complètement les choses. En fait, c'est mon premier projet où je m'occupe de la partie édition de A à Z. D'habitude, j'étais vraiment uniquement dans la posture d'auteur. Donc c'est assez intense.
Et nous, c'est un projet 2D sans face. Donc on a accueilli avec joie Pierre et ses travaux au sein de la structure pour publier des bouquins, quoi.
Chouette. Pour être complètement honnête, je crois que je possède deux de tes jeux, Pierre. Je possède Sorcière et Sortilège et Via Fabula.
Oh, trop bien.
Mais avant de préparer cette émission, je ne savais pas que ces deux jeux étaient du même auteur. Voilà.
Ah.
C'est pour dire à quel point de non-copinage on est là tout de suite. J'apprends à te connaître en même temps que je fais cette émission.
En fait, c'est un problème marketing quelque part que tu soulèves, parce qu'en réalité, si tu savais pas que c'était du même auteur, c'est que Via Fabula, c'est un jeu gratuit qui est sur mon site, www.drnemrod.ch, et donc il y a mon nom qui n'apparaît pas, et Sorcière et Sortilège, je l'ai publié sous mon nom Pierre Saliba, donc c'est possible.
Et voilà, tout s'explique. Alors je vais juste, pour les auditeurs, quelle est ma petite anecdote par rapport à Via Fabula, parce qu'en fait, c'est le seul des deux auxquels j'ai joué, pour finir complètement le disclaimer. Mais il m'a laissé vraiment une très forte impression. Alors, c'est un jeu qui joue en promenade et qui force chacun son tour à s'improviser guide touristique et un peu affabulateur. Donc, on est guidé par des prompts qui sont marqués sur des cartes et puis le paysage qu'on a sous les yeux. Et on doit inventer des anecdotes ou des légendes soi-disant liées au lieu qu'on traverse. J'y ai joué lors d'une promenade urbaine, avec des gens qui pour la plupart se voyaient pour la première fois en chair et en os, dont une amie qui mettait pour la première fois les pieds à Lyon, et qui devait parfois nous faire guide pour cette ville qu'elle ne connaissait pas du tout. Et en fait, c'était génial. Donc vraiment, merci pour cette expérience ludique qui reste vraiment très chère à mon cœur.
Eh ben, je t'en prie, ça aurait été vraiment hyper marrant qu'en fait, parce que je suis d'origine de la région lyonnaise, et ça aurait été hyper marrant que je vienne à Lyon un jour par hasard, et puis que je tombe sur par hasard. Alors c'est grand Lyon, la probabilité est quand même faible, mais que je tombe sur des gens qui jouent à Via Fabula comme ça sans prévenir, j'aurais trouvé super marrant, quoi. Alors, c'est toujours un peu, et puis c'est magnifique, je te remercie pour cette anecdote, parce qu'en réalité, les jeux gratuits, justement, donc les jeux que je délivre via mon site ou via Itch.io, j'ai aucune idée de savoir s'ils sont joués. Ils sont gratuits, je reçois pas d'argent, donc ils sont à libre disposition et quelque part dans ma tête c'est un peu c'est une bouteille à la mer, quoi. Donc là, le fait de savoir que ils sont non seulement téléchargés mais joués, ça m'a rempli de joie en fait. C'est vraiment super.
Ouais, vraiment, enfin c'était un très très bon souvenir cette partie. Et il s'est développé petit à petit une mythologie lyonnaise alternative à base de gros caillou-tites qui serait un minerai spécial qui avait été miné dès l'époque romaine et qui permettrait de... Je sais plus quoi exactement. Enfin bon, bref. C'était parti dans un délire absolument génial au fur et à mesure des improvisations des uns et des autres.
Mais alors sache que c'est pas, comment dire, anecdotique ce que tu racontes, et c'est carrément, c'est un système émergent. Et ça, je l'ai pu le constater dans les différentes parties que j'ai fait. En réalité, ça fait toujours comme ça. C'est-à-dire qu'au final, au fil de la balade, le groupe s'approprie les histoires des uns des autres, et au final, il y a une mythologie commune qui commence à se créer, c'est systématique. C'est pas quelque chose que j'avais prévu à la base, c'est quelque chose que j'ai constaté. Je pense par facilité, en fait, on va prendre les récits des uns des autres, on fait des ponts, et à la fin, se construit, au fur et à mesure des créations des uns des autres, se construit une mythologie commune. Nous, on avait fait une balade avec Stéphane Galère, un des membres de notre maison d'édition, au fil du Nozon, une rivière qu'on a ici en Suisse, et en fait, on avait fini par raconter une espèce d'histoire légendaire autour de la rivière, au fil du temps, avec différents intervenants, comme une espèce de saga, en fait. Et j'ai remarqué que c'est un système émergent de Via Fabula qui apparaît pratiquement à chaque fois.
Et ben, je crois que c'est justement via le post de blog de Stéphane, alias Galet, que j'ai entendu parler de ce jeu, et je me suis dit, c'est génial, faut qu'on essaye. Et d'ailleurs, comment ça t'est venu une idée pareille de faire un jeu qu'on peut faire en promenade en utilisant le monde extérieur comme ça?
En fait, si tu regardes sur mon site, il y a tout plein de petites expérimentations. Et la première d'entre elles est une des plus barrées. C'est un jeu qui s'appelle Smoking Blowers. C'est un jeu de rôle qui se joue à deux autour d'un billard où on joue au billard et les règles du billard sont légèrement tordues pour pouvoir permettre de raconter une histoire. Donc en fait, on a eu une discussion avec David Javet, qui est un grand copain à moi, et qui est game designer devant l'éternel, et quelqu'un qui est très actif dans la Suisse romande, et on cherchait des moyens de jouer autrement, et puis des moyens de se dire, ok, on va utiliser des outils différents, au lieu de dés, de cartes, on va hacker certains autres jeux, et puis on s'était dit, ok, le billard était arrivé comme ça. Et Via Fabula est arrivé un peu après, donc on avait toujours cette ambition de créer quelque chose qui était un jeu de rôle, mais en utilisant des moyens à côté. Et en fait, on a eu une opportunité avec une des villes de Suisse romande, qui est la ville d'Yverdon, qui nous a mandaté pour faire des balades imaginaires, des espèces de guides touristiques imaginaires dans les rues d'Yverdon. Donc il a fallu inventer un système autour de ça. Ça a été conçu lors d'une balade, évidemment, que je faisais avec ma compagne, et puis après, ça a été mis par écrit, monté en deux temps trop mouvement, puis ça marche bien, quoi.
Ça marche effectivement super bien. Alors, l'un et l'autre, vous parlez beaucoup de Suisse romande depuis le début, c'est donc là où vous êtes basé. Est-ce que vous pensez qu'il y a des spécificités de votre pratique, de votre façon de créer des jeux qui viennent spécifiquement de cette région-là, ou tout simplement peut-être le fait que 2D sans face y est quand même fortement implanté?
Je te laisse peut-être commencer, Antoine. Moi, j'ai un point de vue un peu différent, étant donné que je suis français naturalisé suisse.
Ouais, bon, déjà, c'était super intéressant d'entendre ces anecdotes autour de Via Fabula. Les systèmes de prompt ont cette tendance à générer de l'univers, en fait. Et là, c'est vraiment un exemple parfait. Totalement fonctionnel, je suis assez fan aussi. Pour revenir à la question, est-ce qu'il y a une spécificité suisse romande? Je ne pense pas qu'on puisse dire ça comme ça, en fait, parce que en fait, la Suisse romande est quand même très très fortement influencée par le grand voisin qu'est la France, en fait. Donc on a énormément de notre culture qui est directement, je dirais, importée des médias français, pour une part.
Toutes mes condoléances.
Voilà, mais d'un autre côté, on remarque aussi que les médias français sont de plus en plus, les bons médias, hein, ceux qui savent ce qu'ils font, sont de plus en plus parasités par des humoristes suisses de qualité. Donc,
oui, exactement.
Je dirais que... On a peut-être ici une liberté de parole du point de vue des médias qui est un peu, qui évidemment, on sort du landerneau parisien et puis voilà quoi. Mais je pense que si tu poses la question à des gens de Bruxelles ou de la Belgique francophone, tu vas avoir à peu près le même type de réponse.
Mmh. Ouais, je vois bien.
D'un autre côté, nous, on est aussi très influencé par les traditions de la démocratie populaire, au fait. Donc, les systèmes coopératifs, les choses où on collabore pour construire un truc, ça fait un petit peu partie du génome local. Donc, je pense que quand, au début des années 2000, les jeux de rôle coopératifs ont commencé à apparaître au niveau expérimental, ça a pris assez vite, en fait, par ici. C'est pas devenu quelque chose qui, éditorialement parlant, est devenu vraiment un truc absolument incroyable. Mais juste comme ça, le nombre d'exemplaires en circulation que j'ai déjà vu de For the Queen ou Pour la Reine, sa version française,
oui,
c'est réellement, réellement impressionnant. Ça s'est vendu, ça s'est vraiment vendu comme des petits pains par ici.
Ouais, oh, j'ai quand même l'impression que ça se vend bien en France aussi. Faudrait voir exactement, mais oui, je vois bien ce que tu veux dire.
J'aurais un point à rajouter, Antoine, parce que effectivement, moi, j'ai une expérience différente. Je suis né en France, je suis né dans la région de Lyon. Je suis arrivé en 2007 en Suisse, pour des raisons de professionnelles. Et puis, c'est un pays que j'ai pas quitté depuis. Donc, j'ai vraiment 25 ans d'expérience française et bientôt, j'aurai 25 ans d'expérience suisse. Je trouve que la frontière franco-suisse, c'est un miroir sans teint. C'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit, Antoine, les Suisses ont depuis longtemps accès aux médias français, puis pendant longtemps, c'était les médias principaux, parce que la Suisse est un petit pays, pas un train de retard, mais en tout cas, il y avait moins de chaînes de télévision, il y a moins de médias, il y a moins d'argent pour les médias aussi, surtout parce qu'on est divisé en trois régions linguistiques, et ce qui fait que les Suisses savent ce qui se passe en France, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Tu peux demander à n'importe quel Suisse, il saura te dire quel est le nom du président français, mais l'inverse est rarement vrai. Bon, faut dire aussi qu'en Suisse, on change tous les ans, mais il n'empêche.
Ça change à Meloni, non?
pas loin. Parle pas de trucs qui fâchent, s'il te plaît.
Mais ça veut dire qu'en fait, il y a une influence, effectivement, une influence du côté français, mais c'est le petit frère. La Suisse, c'est le petit frère qui a quand même une espèce de liberté de convoler dans son coin qui est pas forcément négligeable et en tout cas qui est vraiment appréciable. Moi, je trouve qu'il y a une vraie spécificité du game design suisse. Il y a beaucoup de clichés qui circulent donc sur la Suisse depuis la France et certains sont plus ou moins vrais, certains sont historiques, d'autres sont complètement faux. Mais la Suisse moderne, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de technologie, beaucoup de, comment dire, de recherche de pointe, en fait.
Mm-hmm.
Et je trouve que ça se ressent aussi dans le game design, une espèce de sophistication dans la recherche. Alors toi, Antoine, tu parlais aussi de culture de la démocratie, et c'est vrai, mais il y a aussi une volonté de faire des choses bien, de faire des choses sophistiquées et de proposer des produits vraiment de bonne qualité. Et ça, c'est pas du tout en opposition à la France. Hein. La production française de jeux de rôle, elle est aussi excellente. Mais voilà, en Suisse, je pense qu'on va peut-être chercher dans les détails. Il y a un petit côté. Alors là, je vais faire un cliché, mais il y a peut-être un petit côté horlogerie. On va aller chercher la belle mécanique, le beau geste, les choses comme ça. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est comme c'est un pays qui est plurilinguiste, eh ben, la pratique de l'anglais est beaucoup plus courante qu'en France, ce qui fait que la consommation de jeux de rôle étrangers y est aussi beaucoup plus courante. Faut pas oublier que la Suisse est francophone, germanophone et italophone. Donc on a un pied un peu dans les trois gros voisins, et en termes de production rôlistique, c'est pas négligeable, les Italiens, ils ont une production assez dynamique ces dernières années, en termes de jeux de rôle, et les Allemands aussi.
Ben, à vous écouter, en fait, je suis en train de repenser à quelqu'un. Je suis en train de penser à Christophe Guillaume Buckley, qui était à l'origine du forum Silent Drift, qui a lancé une grosse partie du mouvement indé-forgien francophone, et qui effectivement vient de Suisse romande aussi. Et ça, j'ai l'impression que d'un seul coup, de comprendre une grosse brique de plein de choses que vous racontez, avec ce que vous racontez.
Attends, ça va même plus loin que ça, en fait. Christophe et moi, on vient de la même ville.
Ha !
Alors, là aussi, il y a une histoire d'échelle. Hein. La Suisse romande, c'est l'échelle d'une région française. C'est un peu plus petit qu'une région, c'est un peu plus gros qu'un département. mais c'est quand même fréquent ce genre d'histoire. C'est pas si surprenant que ça. Le fait que des gens se retrouvent et puis finalement qu'ils viennent du même village, c'est un joli hasard, Antoine. Mais c'est pas si
surprenant. Mais c'est un joli hasard aussi parce que si tu veux, Christophe, je ne le connaissais pas avant de le rencontrer à travers le jeu de rôle et l'aspect forgien de Silent Drift. Et en discutant avec lui, je réalise en fait qu'on vient les deux de Lémont. On ne s'était jamais croisés, mais que je connais ses frères parce qu'on a fait du jeu de rôle grandeur nature ensemble. Dans mon univers de fantasy, n'est-ce pas? Non, il y a des choses comme ça qui se passent. Et puis, tu mentionnais tout à l'heure la production italienne. Et c'est vrai qu'en fait, en Suisse, on est un petit peu à ce carrefour finalement de trois immenses régions linguistiques qui produisent une quantité considérable de matériel médiatique de toutes sortes. Actuellement, voir ce qui se fait en fait en Italie, dans le mainstream, d'une part, c'est assez frappant de voir la qualité des produits. Là, on voit passer, il y a un projet actuellement en full lancement, le Broken Compass. C'est l'exemple typique, en fait, de cette école du grand jeu populaire, en fait, comme elle est appliquée actuellement en Italie. Vraiment, c'est un tout bel exemple. Donc, on regarde, on suit, hein, on essaye de voir ce qui se passe et peut-être publier des choses qui pourraient être intéressantes aussi.
Et qui a une attitude, du coup, peut-être plus riche et plus productif que quand on est quand on regarde son nombril impérialiste ce qui arrive à toutes les échelles hein,
à toutes les échelles et c'est pas un jugement négatif hein, parce que la France a un rayonnement que quelque part en Suisse romande on cherche à imiter hein. C'est pas pour rien comme tu le disais Antoine qu'il y a des humoristes qui réussissent en Suisse et qui s'exportent en France pour parce qu'ils percent le plafond en quelque sorte. Donc le rayonnement français existe, il est là, c'est une réalité. Et moi, ce que je voudrais surtout mettre en avant, c'est qu'il y a une spécificité de création suisse qui est pas à négliger, qui est évidemment pas à la même échelle, mais c'est intéressant. Je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser.
Eh bien, je commençais cette émission sans savoir si on allait parler de la Suisse. Eh ben, j'ai c'est presque fait. Une émission complète sur la Suisse. Merci beaucoup. Alors du coup, peut-être que j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs avec mes questions qui n'arrivent pas dans le bon ordre, mais est-ce que, Pierre, tu pourrais te présenter en tant qu'auteur de jeux de rôle? Pas forcément, je joue depuis telle date, hein, mais quels sont les jeux qui t'ont influencé? Comment est-ce que tu te places, toi, dans le paysage des auteurs de jeux?
Ouais, alors c'est compliqué parce que je suis pas auteur professionnel, tu vois, c'est vraiment, alors c'est un second métier, je dirais, c'est plus qu'un hobby, hein, c'est quand même un second métier. Je génère pas des masses d'argent, mais c'est quand même l'investissement que j'ai dans cette activité dépasse le simple loisir, quoi. Comment je me positionne? Je suis obligé de parler des origines. Hein. Moi, le premier jeu que j'ai eu, c'était Vampire la Mascarade, et je pense que ça a influencé un peu toute ma vision du jeu de rôle, c'est-à-dire quelque chose d'horrifique et quelque chose qui se veut narratif. Alors, à l'époque, c'était le jeu de rôle le plus narratif, alors que maintenant, Vampire la Mascarade, en 2024, bah, c'est un jeu tout à fait standard qui est pas vraiment narratif quand on regarde. Hein. Il y a pas de prompt, il y a pas d'invite, il y a des choses qui se font de manière beaucoup plus freeform maintenant. Mais à l'époque, c'était un gros truc. Dans les années 90, c'était un peu une espèce de révolution. En tout cas, c'est ce qui prétendait White Wolf à l'époque. Donc, je pense que ça a vraiment influencé ma vision du jeu de rôle. Je suis pas attaché à un style plus qu'un autre. Moi, je pense, et là, je vais citer Kafka, un récit, quel qu'il soit, ça doit être une hache qui fend la mer gelée en nous. Il faut qu'un jeu, ça nous percute. Les histoires qu'on doit raconter, qu'on a envie de raconter, il faut que ça nous parle, il faut qu'il y ait du sens. Donc j'essaye de faire des choses comme ça dans les jeux que je crée, hein, dont on a parlé de Via Fabula tout à l'heure. Donc autant dans les game design qui vont apporter certains types d'émotions que dans les histoires que j'essaie de raconter, moi l'important c'est qu'il y ait du sens. Voilà, qu'il y ait du sens, qu'il y ait de l'émotion générée et que ça a un impact. Donc sans forcément, ça serait prétentieux de dire que j'y arrive à chaque fois, à fendre cette fameuse mer gelée. Mais en tout cas j'essaye. Après, dans les grosses créations ces dernières années, moi, j'ai été pas mal influencé par Fate, qui, je trouve, a fait quelque chose de fantastique. Là, je parle vraiment de game design, hein, parce que après, en termes de narrative design, les univers sont tous très intéressants, je trouve. J'aime tout. J'ai une ludothèque assez riche et variée et qui va chercher autant dans la science-fiction que dans l'horreur, dans le bad fan. Donc, j'ai pas de point de prédilection. J'aime bien les belles mécaniques bien huilées. Je suis un peu comme le garagiste, tu sais, qui en ouvrant un moteur apprécie la belle mécanique. Quand je lis un jeu de rôle, je me vois un peu comme ça.
Alors justement, de ce que je connais de ton travail, tes jeux que j'ai lus, et puis le peu que je connais pour l'instant du projet Max Brown, je trouve que les systèmes que tu produis, ils ont un côté, très tactile et malin. Il y a des cartes à manipuler dans Via Fabula,
ouais.
Et dans Max Brown, j'ai l'impression...
Oui.
Il y a un espèce de damier à remplir avec les ingrédients dans Sorcière et Sortilège.
Oui.
C'est quelque chose qui te vient dès que tu penses à un système de jeu, ou est-ce que c'est quelque chose qui vient plus tard quand tu penses à des questions d'ergonomie, par exemple ?
Alors, je vais revenir un peu sur mon historique de rôliste. Les 10 premières années de ma pratique de jeu de rôle, ça a été une pratique quasiment exclusive avec mon petit frère Thomas. On était dans une région de France où il n'y avait pas beaucoup d'activités rôlistiques, et puis je pense que dans les années 90, c'était pas trop la période la plus glorieuse du jeu de rôle. Donc ce qui fait que pendant une dizaine d'années, je n'ai joué que avec mon frère. Alors ça aurait pu mal tourner, on aurait pu jouer à Fatal ou à des trucs comme ça, mais il se trouve qu'en fait ça a eu un effet hyper positif, c'est qu'on a joué sans contrainte, on a joué sans pression, sans jugement, sans mode, sans suivre des tendances ou des choses comme ça. On faisait ce qui nous plaisait. Et en fait, c'est ça que je fais. Je maintenant, quand je crée, je me remets dans cette espèce d'état d'esprit où je suis seul au monde et je me dis, OK, j'ai envie vraiment de m'amuser. Il n'y a pas de limite autre que celle du plaisir de créer, du plaisir de jouer après. Et je trouve que tu vas vachement loin quand tu arrives à te libérer un peu de carcan comme ça. Les différents systèmes que je crée sont basés sur les sens, comme tu l'as dit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est des ludèmes hyper puissants, hein. Donc là, j'emploie le mot ludème à dessein parce que ça me permet d'ouvrir une parenthèse. Un ludème, c'est le dénominateur commun d'un jeu. Un ludème, c'est l'atome, si tu veux, c'est l'atome du game design. Lancer un dé, piocher une carte ou regarder sa pioche, tout ça, c'est des ludèmes, c'est des éléments fondamentaux du jeu. Et si tu regardes, tous les ludèmes, c'est tout basé sur les sens. Le fait de choisir une compétence, de lancer un dé 20, de comparer une difficulté, ça fait appel à... Le plaisir vient du sens. Voilà, le plaisir vient du sens, que ce soit le toucher, le calcul. Donc, les jeux que je crée sont juste basés sur ce simple principe. On veut et on doit manipuler des choses pour créer des émotions. On est des créatures physiques, on n'est pas des purs esprits. Donc, les ingrédients de Sorcière et Sortilège, il y a de la couleur, on les place sur une grille. Les ingrédients, ça peut même être des bonbons. Des fois, ça m'est arrivé avec des enfants d'employer des petits nounours, des gummy bears pour les ingrédients. Ils ont la bonne taille, ils sont colorés, donc c'est parfait. Voilà, c'est uniquement la recherche de qu'est-ce qu'on peut faire avec nos sens.
Et alors du coup, question un peu provoque, mais quand on crée un système comme ça, qui est basé sur le tactile, qui est basé sur plusieurs sens différents, comment ça se combine avec le jeu en ligne ?
Ah, ça c'est pas provoque, c'est carrément un showstrap que tu me mets là, parce que c'est difficile. C'est difficile, évidemment. Sorcière et Sortilège, on a réussi à faire des parties en ligne avec un système qui n'existe plus, qui s'appelle Stories, qui était un espèce de système freeform où on pouvait uploader des images et puis il y avait des espèces de jetons de couleurs, donc c'était parfait. La collection Max Brown, c'est une question. Comment on va faire ? C'est un palier qu'on avait prévu de débloquer et de payer quelqu'un pour aller pour nous programmer un truc sur Foundry. C'est possible. Je pense que c'est possible. La difficulté dans Max Brown, c'est que les cartes doivent être éditables en cours de jeu. On reviendra après sur le deck building, mais évidemment, la plupart des jeux que je crée, c'est des jeux de proximité, des jeux de partage. Via Fabula en ligne n'aura aucun intérêt, tu vois.
Ou
Smoking Blower dont j'ai parlé avant, c'est des jeux qui comme ils sont basés sur les sens, ils doivent être faits en présentiel quelque part.
Et juste comme ça fait partie de ta pratique, le jeu en ligne ?
Oui, alors oui, bien sûr, hein, il n'y a aucune volonté militante ni revendicatrice. Moi, je joue en ligne, bien sûr. Pendant le confinement, j'ai vraiment adopté cette pratique. D'ailleurs, en fait, même avant le confinement, je ne faisais même pas de jeux vidéo en ligne, je faisais des jeux vidéo solo. Et depuis le confinement, je m'y suis mis, jeux vidéo, jeux de rôle en ligne, c'est hyper pratique. Voilà. C'est hyper pratique. Et puis, il y a plein de trucs. Les plateformes sont fantastiques. Moi, je suis pas contre du tout, quoi.
Ok, ok. Et donc là, du coup, on a un peu parlé de comment... Enfin, sur quoi tu bases tes idées de mécanique, hein, tu l'as dit, sur les sens. Et les idées d'univers ou d'histoire, ça te vient d'où ?
Je saurais pas trop dire. Des films, je suis grand amateur de films. Je pense que, voilà... Là, j'ai pas de réponse hyper originale à faire parce que je pense que c'est la même chose pour tout le monde, tu vois. Je me nourris de films et de bouquins. Alors, peut-être un truc un peu plus original, c'est que de mon métier principal, je voyage beaucoup. Et ces voyages, ben, me permettent un peu de m'aérer l'esprit, puis de faire face à un peu d'altérité, d'étrangeté. Donc, il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui ont été créés. En plus, le voyage, souvent, quand je voyage pour le boulot, je voyage seul. Et dans cette solitude, ben, je me retrouve un peu à observer un peu ce qui m'entoure. Et puis, des fois, les idées viennent. Mais voilà, j'ai pas énormément de trucs à donner, en fait.
Oui, donc c'est pas forcément une méthode, quoi, on va dire. Alors, je vais essayer de faire une question un peu plus spécifique. Dans le cas du projet Max Brown, comment t'es venue l'idée de ce jeu? Est-ce que ça t'est venu par l'univers? Est-ce que ça t'est venu par la mécanique? Est-ce que c'était venu par une idée d'histoire ou une thématique?
Oui, alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'autant c'était difficile pour moi de faire une généralité, autant là je peux te répondre de manière beaucoup plus précise. Mais avant de te répondre pour la collection Max Brown, tu as parlé d'outils et de méthodes. Alors j'ai un truc à conseiller à ceux et celles, ou plutôt celles et ceux qui voudraient tout simplement créer, que ce soit histoire ou système de jeu, c'est avoir un petit carnet et un crayon de papier dans la poche tout le temps. Parce que des fois, les bonnes idées viennent et puis on les oublie, on se dit « Ah, j'y penserai plus tard », on n'y pense pas. Donc ça, c'est vraiment le truc que je conseille, c'est de toujours avoir un petit calepin et de se laisser nourrir par les choses qui arrivent et puis de noter les bonnes idées quand elles sont là.
Et je rejoins totalement ce que tu dis, Pierre. Là, avec le carnet, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Il n'y a aucun doute pour moi là-dessus non plus.
La vie s'écoule un peu sous nos yeux, le temps passe et puis et en fait il faut saisir les idées quand elles sont là, les moments quand ils sont là. Surtout que le fait de les écrire, moi j'ai un carnet même sur ma table de chevet parce que quand je me réveille la nuit avec une idée, j'ai pas envie de m'encombrer l'esprit, j'ai juste envie de dormir en fait, donc je me décharge sur le carnet et ça m'évite d'avoir à y repenser plus tard. Et au réveil, je reviens sur les idées que j'ai écrites dans la nuit. Donc je sais pas si tu fais ça aussi, Antoine.
Pas ces temps, non, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant un bon moment. Je réalise que j'ai un petit peu arrêté pendant la période du Covid, justement, donc c'est bien qu'on en parle. Je vais remettre ça en activité d'emblée.
Alors, plus spécifiquement concernant la collection Max Brown, c'est vraiment, il y a un voyage. Il y a vraiment un jalon, en fait. C'est en 2009. Je voyage avec ma copine. On décide, donc, on est un jeune couple et on est jeune. Donc, on n'a pas d'enfants et on décide de voyager dans l'Est de l'Europe. Alors, je peux pas dire les destinations parce que ça serait spoiler la campagne du jeu, mais il y a quatre destinations bien précises dans ce voyage et c'est dans plusieurs pays différents et c'est un voyage incroyable. Donc, on commence par Saint-Pétersbourg. Et ça, je peux le dire parce que c'est vraiment le premier pays, la première ville qui se trouve dans la campagne du jeu qui s'appelle Sous l'œil du dragon. Mmh. Et on commence à Saint-Pétersbourg et puis après, on dérive dans différents pays entre l'Europe et l'Asie. On va voir des copains, on prend des transports complètement improbables pour aller dans des endroits reculés. Enfin, voilà, c'était 3 semaines complètement folles. Et des différentes destinations qu'on a fait commencent à émerger une histoire, parce qu'en fait, en prenant des notes, je réalise qu'il y a des ponts, il y a des légendes locales, et puis c'est pas des petites légendes de rien du tout, c'est des trucs historiques finalement assez connus, mais que j'ignorais, et je commence à faire des liens, je commence à écrire une histoire. Et en 2010, je suis en fait en mesure de faire jouer une campagne, et je le fais à Lausanne, auprès d'amis qui m'ont suivi de 2010 à 2014. Donc pendant 4 ans, on joue la campagne Sous l'œil du dragon. Et c'était une expérience de jeu de rôle intense. Et en fait, avec cette équipe de campagne, ben, des questions se posent, l'univers commence à se forger. Donc, tout est parti de là. Après, évidemment, le projet, il a été travaillé, retravaillé, il a été proposé à différents éditeurs, il a connu plusieurs versions. Et l'année dernière, ben, j'ai repris un peu, je l'avais proposé à un éditeur et puis j'ai repris les droits dessus et j'ai reforgé pour que ça soit compatible avec les années 2020. Et puis c'est à ce moment-là que je suis allé voir Antoine, qu'on s'est dit bah ok, on va le faire en Suisse. Et le système de jeu a été fait à ce moment-là. Il n'était pas fait encore avant. Le système de jeu, il est récent. Il a un an et demi maxi.
D'accord. Et alors quand tu dis que au cours de cette campagne relativement longue, 4 ans, il y a un univers qui se forge, il y a quelque chose qui émerge qui était peut-être pas complètement dans tes notes de départ, à quel point est-ce que l'expérience du jeu soit est enrichie par ce qui est arrivé dans ta campagne, ou à quel point est-ce que le jeu, son système ou autre, permet aussi une émergence d'une partie de l'univers, ou est-ce qu'on va vraiment jouer dans l'univers qui est celui de ta campagne ?
Alors, je trouve très, très indélicat de proposer à des gens une campagne que tu as fait jouer et qui, eux, les intéressent pas forcément. Parce que je trouve très indélicat de leur proposer quelque chose tout cuit, en leur disant vous allez voir, finalement, vous allez la jouer exactement comme je l'ai joué moi, et ça va être super. Non, les gens, ils veulent s'approprier, et c'est bien normal, ils veulent s'approprier des scénarios. Faut qu'une campagne soit suffisamment ouvert et libre pour pas être trop pris par mon identité de MJ, tu vois.
Ouais, je vois très très bien. C'était exactement le sens de ma question.
Ouais, ouais, et ça, je fais très attention à ça. Donc en fait, la campagne, elle a été lissée pour qu'elle ressemble pas à la campagne que j'ai jouée. Et c'est un canevas qui sert à ce que les joueurs et que les MJ qui liront cette campagne, ils fassent leur propre campagne, tu vois. Donc ça, c'est un soin extrême. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu plusieurs réécritures, il y a eu plus de temps de réécriture que de temps de jeu, en fait. Parce qu'il a fallu vraiment expurger tous les trucs qui étaient trop spécifiques à ce qui a été joué à l'époque. Il y a des choix que mes joueurs ont fait qui étaient des fois géniaux, des fois absurdes, mais très très, ça leur appartenait vraiment de manière intime. Et ça, c'est pas quelque chose que je voulais voir dans le document final, parce que ça n'appartient qu'à eux, et puis il y a très peu de chances que d'autres joueurs se retrouvent là-dedans. Il faut que tout le monde soit capable de s'approprier le livre.
Oui, ça, j'avoue que le contre-exemple que j'ai de ça, c'est beaucoup... justement, tu parlais de Vampire tout à l'heure. Je pense à un autre jeu à Metaplot, francophone celui-ci, Néphilim, où on sentait parfois que dans les choses qui étaient racontées dans les campagnes, il y avait... vos PJ vont forcément faire ça parce qu'en fait ils ont fait ça quand on l'a joué.
Ouais.
Voir, vous allez rencontrer un PNJ super badass, vous allez voir, en fait c'était mon PJ à moi quand j'ai joué la campagne. Enfin,
ah, ça c'est horrible.
Voilà, c'est le genre de truc horrible. Et donc ce que tu dis, c'est que justement tu prends le contre-pied complet de cette démarche-là pour donner un canevas, comme tu dis, où on peut, où le groupe va pouvoir s'exprimer, il y a des choses qui vont pouvoir émerger, quoi.
Alors, c'est compliqué parce que effectivement, quand t'as plusieurs destinations, tu vois, je prends un exemple très 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 mastoc, c'est les masques d'Inyarlathotep. C'est une vraie aventure avec du voyage, avec différentes destinations. C'est très compliqué de faire quelque chose comme ça qui soit pas un train fantôme.
Oui.
Il faut laisser aux joueurs l'occasion de se dire, ok, on peut aller dans tel pays ou dans tel pays. Donc les masques de Nyarlathotep, ils ont vraiment, je pense que c'est pour ça, c'est une des campagnes vraiment les plus mythiques de toute l'histoire du jeu de rôle, c'est que les différentes destinations sont interchangeables. Et l'inconvénient, c'est qu'en fait, ça perd un peu de sens et d'intensité. Comme tout est interchangeable, vraiment, tu te retrouves avec des trucs assez génériques. Donc je pense qu'il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux à gérer, c'est-à-dire que ça doit pas être un train fantôme, mais ça doit être une proposition ludique. Tu peux pas être non plus complètement dans le bac à sable. Je pense qu'en tant qu'auteur, tu peux te permettre de dire à un moment donné, voilà, là, si vous voulez que l'intrigue elle avance, en fait, il y a ce jalon-là à remplir. Donc, il faut qu'ils aillent à tel endroit. Mais après, tu peux aussi donner des outils pour remplir, pour donner envie de faire jouer des aventures pendant que les joueurs, ils sont dans telle destination. Imagine, ils sont à Saint-Pétersbourg, là, au début de ma campagne. Ils suivent pas le fil de l'intrigue. Eh ben, la campagne, elle doit être suffisamment riche pour te permettre de naviguer dans l'univers qu'ils proposent et puis de guider insensiblement les joueurs vers la suite de la campagne, sans que ça soit un pur train fantôme, tu vois.
Mmh, je vois très bien. Peut-être qu'on va donner un peu la parole à Antoine, hein, qui doit se morfondre. Non, bah, c'est ton interview quand même, hein, c'est normal. mais du coup, de ton point de vue, Antoine, comment s'est fait dans l'histoire du jeu là que vient de nous donner Pierre, la rencontre qui a amené à ce que, je sais pas si c'est toi ou c'est d'autres gens à 2D sans phase, vous vous êtes dit, justement, monte dans le train, ça a l'air d'être cool ton projet, on fait quelque chose. Enfin, je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais du coup, comment s'est passée cette rencontre de ton point de vue?
Bon, déjà, je ne me morfondais pas, hein, j'écoutais attentivement tout ce qui se disait, tout ça était très intéressant. Bon, j'ai plus exactement les circonstances exactes de comment, de où on est parti, de à quel moment on a décidé de collaborer, tout ça. Mais Pierre, évidemment, est une figure connue du milieu rôliste roman. Et on a eu l'occasion de le rencontrer, de voir les jeux qu'il fabriquait régulièrement, participer aux mêmes structures associatives comme Ars Ludendi, par exemple, ou des discussions aussi à bâton rompu sur le game design au cours de conventions où, en fait, on était les tenants du titre de rôliste abandonné au milieu d'une mer de plateauiste. Puis on s'est rendu compte assez vite, en fait, que même si, de manière générale, à l'intérieur de 2D sans face, les idées de game design sont assez... ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir souvent des justifications un petit peu différentes, des théories un petit peu différentes. Pour Pierre, c'est l'idée d'impliquer tous les sens et tous les ludèmes, en fait, dans la proposition ludique. De mon côté, c'est plus une idée... De construction d'un compte interactif ou de faire participer les joueurs à quelque chose qui peut prendre des proportions assez, assez dingues. Il y a un peu tous ces trucs-là, mais le résultat final, c'est qu'on est tous des très gros amateurs de jeux qui ont des mécaniques un peu tactiles, un peu surprenantes avec deux, trois astuces techniques comme ça qui sortent un petit peu du cadre de ce que tu aurais dans un jeu complètement construit sur le modèle d'un Donjons et Dragons, par exemple.
Oui.
Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans ces discussions, on se rend compte que on pourrait peut-être faire un truc, on pourrait collaborer. Et puis un jour, on a fait ça plusieurs fois, on s'est retrouvé avec Pierre, on a discuté de choses et d'autres. Et puis il arrive un jour avec une liste de projets, et puis il me fait « Ouais, j'ai ça, il y a un truc là-dedans qui t'intéresserait. » Et puis en fait, en plein milieu, il y avait la collection Max Brown, je fais « Ouh, ça a l'air... » Du coup, on a commencé d'y travailler. D'abord, enfin, c'est-à-dire, ça se passe comme ça chez 2D sans face, hein. C'est un peu comme à la poste, hein. On demande des trucs et des fois ça arrive. En fait... On a cette tendance aussi à bosser un peu chacun dans notre coin et puis à tout à coup impliquer les autres, à dire « Regardez ce que j'ai fait !» Et hop, il y a une sorte de chose absolument hallucinante qui sort d'une boîte. Et puis à partager en fait le plaisir d'inventer des nouvelles mécaniques et des trucs comme ça. La construction des voiles de l'Aert, en fait, c'était un débat entre nous, d'une part, entre des personnes comme David Javet, qui était mentionné tout à l'heure, et les anciens membres de la campagne. Et ça a donné un résultat qui est fonctionnel et qui est tout à fait plaisant à utiliser, en fait.
Alors, excuse-moi, tu parles à l'instant des voiles de Laert, c'est le nom du système de jeu, c'est ça?
Tout à fait.
C'est exact.
Et c'est un des gros points forts du jeu. Alors, on va y revenir après, mais c'est vrai que je tiens aussi à préciser, Antoine, que tu as eu clairement ton grain de sel à mettre dans ce système, parce qu'au départ, rappelle-toi, on avait dit qu'on voulait un système où la feuille de perso pouvait venir se faire parasiter par des éléments horrifiques, donc les artefacts, qui sont un des points centraux de l'univers, des espèces d'objets maudits, en fait. Et on voulait que sur la feuille de perso, il y ait des éléments qui viennent se rajouter et qui viennent en fait parasiter la vision, donc encore une fois, quelque chose basé sur les sens. Donc, ça, c'était un des prototypes qu'on avait, dont on avait discuté, et ça s'est transformé par la magie du game design en un système de deck building, en fait, où les objets maudits viennent parasiter non plus une feuille de personnage, mais un deck de cartes.
Alors là, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus.
Ouais. Alors, c'est tout à fait normal. Ouais.
Alors, je vais résumer. Alors, on reviendra sur l'univers après, mais déjà, la collection Max Brown, c'est un jeu d'horreur, ou en tout cas un jeu d'aventure horrifique, et la mort, donc la symbolique de la mort, est au cœur de l'univers, et de la et je dirais même est au cœur de la proposition ludique. Le voile de Laerte. Qu'est-ce que c'est que le voile de Laerte? Déjà, ce nom. Intéressons-nous un peu au nom. Laerte, c'est le père d'Ulysse. Et le voile de Laerte, c'est le linceul que Pénélope tisse le jour et détisse la nuit. C'est ce qui lui permet de s'éloigner de sa mort sociale, et peut-être même de sa mort tout court. Donc c'est quelque chose qu'elle manipule, c'est une matière qu'elle va manipuler. Et en fait, j'ai choisi ce nom parce que c'est exactement comme ça que je vois le système de jeu. Les joueurs vont avoir dans leurs mains un deck de cartes, et chaque carte, ça s'appelle un motif narratif. Et c'est tiré d'une théorie de la narratologie. Un motif narratif, c'est un élément narratif qui distingue un personnage d'un autre. Comme j'aime à le dire, voilà, Indiana Jones, il a son chapeau, son fouet, sa phobie des serpents, sa réplique, sa place est dans un musée, et tous ces éléments que je viens de citer, c'est des motifs, ça constitue le personnage. Donc dans le voile de Laerte, un personnage, il est constitué de différentes cartes qui vont représenter ses aspects. On peut faire un clin d'œil à Fate en utilisant le mot aspect. Et donc le voile de Laerte, les motifs se tissent et se détissent au gré de l'histoire pour amener de l'action. Voilà. Donc voilà, on est dans du pur deck building, c'est-à-dire qu'un personnage va être défini par un deck de cartes, que les cartes ont des effets spécifiques, ils ont des valeurs qui permettent de remporter des défis, donc d'égaler ou de surpasser une difficulté, mais il y a aussi des effets de pioche, de défausse, le système permet d'écrire sur les cartes pour les améliorer. Donc on est vraiment dans de la pure mécanique de deck building. Et là, t'as envie de me dire peut-être, mais c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de société en fait. Eh ben non, c'est vraiment un jeu de rôle parce que il y a une intrication, il y a vraiment un mélange entre le côté deck building et la narration qui est fonctionnel. C'est-à-dire que la narration va amener à te faire réfléchir sur la stratégie que tu dois mettre en place pour ton deck building, et les règles de deck building vont t'entraîner à créer de la narration parce que les cartes ont des intitulés qui représentent ton personnage et qui vont servir comme des contraintes pour te dire « Ok, là, j'ai ces trois cartes en main, je dois agir dans cette scène avec un de ces trois aspects de mon personnage. » Et j'invite à ceux qui douteraient de la fonctionnalité du truc à aller regarder un des actual plays qu'on a fait au studio 4D2, parce qu'il y en a 11 ou 12, et le système prend, la sauce prend. On a des choses émergentes qui sortent, et c'est très beau, quoi.
Alors, pour essayer de comprendre un petit peu... C'est quoi? Tu commences déjà avec une main de carte où tu as les aspects de ton personnage, c'est ça?
C'est ça. Tu crées ton personnage en lui inventant donc des compétences, un background. Au lieu d'avoir une page de background que personne va lire et qui sert à rien, en fait, tu résumes ton background en espèce de concept clé et tu les intègres dans ton jeu. Voilà, ton personnage, il est la somme de ses expériences, si tu veux.
Alors, pour être clair là-dessus... C'est quoi? Il y a des cartes qui sont préexistantes et tu pioches un certain nombre de cartes pour constituer ton personnage, ou tu construis les cartes qui correspondent aux aspects de ton personnage, enfin d'un personnage auquel tu as pensé?
Alors, pour être complètement exhaustif dans ma réponse, il y a les deux. Quand tu crées un personnage, il y a 6 cartes génériques qui représentent ce que tout un chacun sait faire. Et donc, dans le désordre, parler, observer, se concentrer, des choses très basiques, tu vois, bouger, des choses très basiques que tout le monde sait faire. Et après, il y a des cartes plus spécifiques qui correspondent à ton passif, à tes compétences, à tes émotions. Donc il y a un mélange de deux. Il y a une partie de base qui est commune à tous les personnages pour permettre aussi aux débutants et aux nouveaux joueurs d'avoir un minimum requis, tu vois, que tout le monde commence un peu à égalité. Et après, il y a des motifs qui sont à créer pour que ton personnage y soit unique.
Ok. Et ceux-là, tu les crées vraiment, quoi.
Exactement.
Ok.
Donc l'idée, c'est d'avoir des cartes effectivement sur lesquelles tu peux écrire, tu dois gommer. Donc ça aussi, c'est un challenge, hein, parce que là on n'a pas encore débloqué le palier pour avoir les cartes. Mais si jamais c'est le cas, il va falloir trouver une matière où on peut écrire et réécrire, alors peut-être avec un feutre ou un papier assez ouvert pour pouvoir écrire au crayon de papier. Ça, c'est à déterminer encore.
Oui, je suis en train de penser à tout le matos des copains belges d'Horrifik qui ont fait aussi plein de cartes sur lesquelles on peut écrire et réécrire au feutre. C'est pas mal. J'ai une question de thématique qui me brûle les lèvres.
Ouais, ouais.
C'est pourquoi la thématique de la mort ?
Ah.
Et ouais. Je dis ça en étant... Enfin, tu vas prêcher un convaincu, en fait. Hein. C'est une thématique que moi-même, j'insère vraiment souvent dans mes campagnes. Pas juste dans « attention, la mort, c'est dangereux, ton perso risque de mourir », mais vraiment d'un point de vue thématique, émotionnel, etc., etc. Mais donc, toi, qu'est-ce que tu y mets, toi, là, dans cette thématique-là, et pourquoi en particulier dans ce jeu-là, quoi ?
Alors c'est très personnel. Hein. Je pense qu'on a tous une approche différente par rapport à ce concept. C'est très délicat d'en parler parce que il y a des gens qui vont trouver que c'est ouais bon la mort ok c'est facile. Moi des gobelins j'en ai tué des centaines des milliers ça ne vaut rien. Et il y a des gens au contraire qui ont vécu peut-être des traumatismes pour qui c'est douloureux d'en parler. Des gens qui vivent un deuil. Donc là je vais essayer d'être très prudent dans ce que je vais te dire parce que je trouve que c'est pas une thématique simple à aborder.
On est d'accord.
Premièrement, il y a quelque chose de très personnel avec ça, parce que c'est, je dirais que ce jeu, c'est aussi un peu une espèce d'exorcisme de certaines choses que j'ai vécues à l'adolescence. Tu vois, tout bêtement, un rapport à la mort qui est très personnel, et je pense qu'on a tous le nôtre. On a tous enfoui au plus profond de nous, ok, un discours avec soi-même en disant « Ok, comment je me situe par rapport à ma propre mort ? Est-ce que j'en ai peur ? Est-ce que je décide de ne pas la regarder ? Est-ce que j'y pense ?» Souvent, on a un dialogue intérieur qui s'installe, et ça, c'est très intime, qui s'installe donc pour essayer de combattre cette fin inéluctable, cette échéance, qui est finalement un des seuls points communs qu'on a tous. On peut avoir des systèmes moraux, des systèmes politiques, des valeurs différentes, mais alors il y a un truc sur lequel on est bien égaux, c'est ça.
L'angoisse existentielle.
Exactement. Et c'est pas tant la mort, c'est l'angoisse existentielle qu'elle provoque qui est au centre du jeu. Il y a une carte notamment, et c'est à tous les niveaux, hein, au niveau purement mécanique, je t'ai dit que dans les motifs de base, tout le monde a les mêmes, ben, il y a un de ces motifs, c'est peur de la mort, tout simplement. Je voulais pas appeler ça thanatophobie parce que je trouvais ça trop alambiqué, alors que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus...
Oui, puis on a l'impression que c'est un truc tiré dans une table aléatoire de Cthulhu, alors que non.
Voilà, alors que c'est quelque chose qui est très naturel, en fait, et qui fait partie de l'expérience humaine, en fait, qui fait partie de l'expérience de la vie. Donc ça, c'était un peu pour te répondre de manière personnelle. Donc je veux pas plus rentrer dans les détails parce qu'il appartiendra à chacun d'avoir ce dialogue intérieur et de se dire, ok, comment on interprète ça, mais moi en tout cas, voilà, dans ce jeu-là, j'y ai mis beaucoup de choses très personnelles parce que par rapport à mon vécu. Après, parce que je ne suis pas là pour parler de moi et de mon vécu et que le jeu s'adresse à des gens autres que moi, et du moment que quelqu'un l'a acheté, il ne m'appartient plus, il lui appartient. Il y a aussi une constatation et je dirais une démarche artistique derrière. Et je trouve, et tu me diras ce que tu en penses, que la mort, c'est au centre de la civilisation humaine. Le premier récit de l'humanité, c'est Gilgamesh. Gilgamesh, c'est un type qui va aller en enfer pour aller chercher son copain Enkidu parce qu'il n'accepte pas de le perdre. Les ethnologues considèrent que les premiers fondements de la civilisation, les premiers rituels funéraires, en fait, marquent le pas du passage entre l'homme en tant qu'animal conscient à l'homme moderne, en fait, quelque part. La conscience que la mort, c'est quelque chose de délicat à traiter et que on crée des rituels autour pour essayer d'apprivoiser ce concept, c'est le fondement de l'humanité. Et si tu regardes maintenant, on est dans une société un peu de loisirs où tout le monde a l'occasion de réveiller un côté un peu artiste. Et il y a très très loin, derrière tous ces apparats, je suis convaincu qu'il y a un peu une façon de dire « Ok, je veux laisser quelque chose derrière moi ». Et là, je parle des artistes, mais on peut parler des hommes politiques, des sportifs. Il y a un peu toujours une pointe. Je ressens, en fait, à chaque fois que quelqu'un entreprend quelque chose de public, je ressens une pointe de, voilà, je ne durerai pas, mais peut-être mon œuvre prolongera un peu ce que je suis.
on se souviendra de moi.
Quelque part. Ouais. Et là, je suis sans jugement du tout. Hein. Je pense qu'on est tous égaux par rapport à ça et ça fait partie de l'expérience de la vie aussi de créer et de faire des choses. Donc, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas le faire. Hein. Mais donc voilà, autant cette expérience personnelle que cette réflexion plus globale sur l'humanité quelque part, en fait, ça a été un peu le fondement de OK, pourquoi je veux parler de ce thème-là spécifiquement. Alors après, ça a l'air prise de tête hein, comme ça, mais en réalité, c'est un jeu fun. Hein. En réalité, c'est un jeu qui est fait pour être fun. C'est fait pour vivre des aventures un peu pulp où les héros deviennent des espèces de trucs plus grands qu'eux-mêmes, justement par la collection d'artefacts, par le fait qu'il leur arrive des aventures, les personnages vont se renforcer et deviennent puissants, fragiles mais puissants. Donc c'est un jeu qui est fun. Ça, après les mécaniques et les concepts développés ont demandé beaucoup de réflexion. Et là, c'est vrai que c'est un peu un télo, un peu prise de tête. Mais dans l'application, je vous assure que c'est fun.
Je suis désolé d'aller encore à contre-pied du fun que tu essayes de remettre après avoir parlé de la mort et tout ça, mais dans ce dont tu as parlé, tu parles beaucoup du sentiment personnel de peur de la mort. Est-ce que c'est un jeu qui aborde aussi le côté social, en fait, c'est-à-dire le deuil, la façon dont un groupe peut essayer de surmonter justement la perte de quelqu'un ou ce genre de choses-là?
Pas exactement. Je pense que le deuil est effectivement quelque chose qui est intéressant. En fait, il y a beaucoup de matière. Hein. Il y a beaucoup d'ailleurs, les théories du deuil sont hyper riches. Il y aurait beaucoup à en sortir. Là, c'est plutôt une réflexion sur je retire la couverture du côté de c'est quand même un jeu. Il faut quand même qu'on arrive à s'amuser avec. Oui. Le jeu pose la question, en fait, qu'est-ce qui se passerait si une faction, si un groupe de personnes trouvait un remède contre la mort et décidait ou non de le partager. Voilà. Donc finalement, c'est vraiment quelque chose, il y a un métaplot en fait, il y a vraiment une grosse histoire derrière le jeu. Et c'est vrai que je ne vois aucune opposition au fait d'aller chercher dans de l'intime et d'écrire des histoires qui vont chercher vraiment dans le drame humain. Mais comme on voulait faire un jeu avant tout et qu'on voulait que les gens ils s'amusent, il y a quand même un espèce d'énorme plot qui pourrait être révélé que je vais essayer d'éviter. Je vais tourner autour sans le percer.
Très bien, très bien. On va éviter de spoiler complètement nos auditeurs.
Ceci dit, si les auditeurs veulent absolument être spoilés, il y a une zone spoiler sur la page de la campagne de financement. Il y a une zone spoiler s'ils veulent vraiment avoir des infos, c'est possible.
Ok. C'est intéressant d'ailleurs d'avoir un jeu à secret. Je dirais, pour être toujours un peu provoque, mais c'est un peu passé de mode, non, les jeux à secret?
Je l'ignore. Je ne sais pas ce qui est de mode ou pas. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est pénible, un jeu à secret, parce que tu vends une boîte fermée, en fait. Donc, ouais, je vous assure, ça sera super. Quand vous l'aurez ouvert, ça sera super. Et c'est horrible. Tu peux pas, c'est invendable. Donc, je sais pas si c'est à la mode ou pas, et je pense que c'est pas quelque chose dont on devrait se soucier. L'important, c'est d'avoir quelque chose à raconter, et puis si c'est plus la période, tant pis. Mais par contre, effectivement, en termes de marketing, c'est juste un enfer, quoi.
Non, je dis ça parce que justement, c'est moi j'ai des souvenirs de jeux de plutôt justement des années 90, tout début 2000, qui avaient justement des métaplots, qui avaient des secrets à découvrir, des choses comme ça. Et je dirais souvent les jeux les plus inventifs dans le paysage actuel, c'est souvent des jeux où tout est émergent, je pense par exemple à un Brindlewood Bay par exemple, où il y a pas de secret, ou plus exactement tu fais un jet de dés à la fin pour savoir si ta théorie était correcte ou pas, ou des jeux sans MJ où du coup c'est très compliqué d'avoir des secrets, des choses comme ça. Et au contraire, moi ça me fait très plaisir de voir qu'on peut avoir des jeux modernes et bien pensés avec des secrets.
Mais il y a dans les jeux à secret, en fait, dans les choses qui sont très très à la mode actuellement, il y a toute une frange des jeux de rôle en solo qui sont entièrement construits là autour. C'est pas uniquement, c'est pas quelque chose qui a complètement disparu. Ça a probablement changé de forme plus qu'autre chose. À la place d'avoir un jeu qui tient entièrement sur quelques métaplots, en fait, il y a peut-être, je dirais plus une sorte de tapisserie de métaplots en fait qui sont accessibles à travers des éléments de campagne, des nouveaux scénarios, des choses comme ça. Côté jeu en solo, il y a Colossal par exemple, où il se passe des choses quand on avance dans le déroulé du livre, dans la façon dont le truc se construit. Il y a des choses qui sont débloquées par la progression du joueur et qui sont en fait des nouveaux éléments d'intrigue. On découvre. Donc c'est assez plaisant. Et je pense encore à un autre jeu que j'ai apprécié en fait découvrir récemment. Il y a Yaseba Bed and Breakfast.
Oui.
Là aussi, le concept est super drôle. En fait, on reçoit un énorme bouquin. Mais en fait, le jeu en lui-même, il couvre à la base que les 30 ou 40 premières pages. Et ensuite, tout le reste du livre, c'est des choses qu'on découvre petit à petit, bon, jusqu'à coller des autocollants sur les pages qu'on est supposé avoir déjà visitées au fur et à mesure qu'on les découvre. Et ça, je trouve génial, franchement.
Ah oui.
Donc, ça change de forme. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Eh ben tiens, ce que tu viens de dire là sur les autocollants, ça me fait penser à une de mes questions. Bien transmettre un jeu, c'est compliqué. Et des fois, bien le transmettre, c'est pas juste avoir écrit un super texte bien carré et bien lisible. C'est des fois des trouvailles de présentation, de l'ergonomie d'un certain matériel, une façon de je sais pas, des fois il y a un rabat dans un jeu qui fait que, enfin bon voilà. Est-ce que dans la collection Max Brown, il y a une trouvaille dont vous êtes très fier et qui permet de rendre le jeu plus facile à transmettre, plus accessible?
Pour moi, c'est le système de cartes véritablement qui est vraiment quelque chose de nouveau, de novateur, de plaisant. Les témoignages que j'ai recueillis de mes joueurs, mes différents joueurs là au gré de mes parties au studio, c'est que on a une sensation qui est vraiment intéressante et importante au fait de piocher une carte, la carte qu'on espérait. On retrouve du plaisir, on retrouve le plaisir qu'on avait quand on joue à Magic et tout ça dans un jeu de rôle. Et j'ai même envie de dire qu'il y a un côté point and click. Ça, Antoine, je voulais t'en parler parce que dans la dernière partie que j'ai faite, il y avait vraiment un côté point and click dans le déroulement du jeu parce que tu sais, on se retrouve dans un environnement, donc une espèce d'enquête, on a des cartes en main et en fait, je me suis dit, mais c'est vrai que le point and click, c'était exactement ça à l'époque, les chevaliers de Baphomet notamment. Tu te retrouves avec des éléments dans ton équipement et puis il faut essayer les combinaisons jusqu'à ce qu'il y ait un truc qui marche. Et là, dans la partie que j'ai faite samedi dernier, donc le début de la campagne sous l'œil du dragon qui commence à Saint-Pétersbourg, il y avait quelque chose comme ça où les joueurs ils se retrouvent dans un environnement un peu étrange et ils vont essayer des trucs avec leur à base de leur motif des éléments narratifs qu'ils ont en main. Donc vraiment moi c'est le mélange entre narration et deck building que je trouve qui est malin. En termes purement ergonomiques, on a designé un espèce d'origami qui sert de paquet de cartes en fait, pour que tu puisses ranger à la fois tes cartes, ton deck de personnages et aussi t'as une espèce de mini-feuille de personnages qui résume quand même les informations de base, le nom et une ou deux caractéristiques. Et cet origami, il est beau parce que c'est une feuille A4 pliée de manière assez maligne et puis ça fait un espèce d'objet qui est assez malin et pratique.
C'est sûr que s'il y a une campagne qui est longue, ça veut dire que les decks constitués, il va falloir les garder d'une partie à l'autre, et donc c'est pas mal effectivement d'avoir une façon de garder les decks constitués entre eux, quoi.
Tout à fait. Et là, l'origami, c'est vraiment le truc intéressant. Il y a un groupe Facebook qui s'appelle les ludistes origamistes et qui propose beaucoup de choses, mais qui sont très compliquées. Mais qui sont vraiment parfaites pour ranger des decks. Là, nous, on a proposé une espèce d'enveloppe très simple. C'est fait en 10 secondes avec zéro découpage, juste une feuille A4. Et on fournit le design qui permet d'avoir un objet joli à la suite. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Après, c'est un jeu qui, à mon avis, se déploie bien en campagne, parce que justement, l'intérêt du deck building, c'est que entre les parties, dans la phase d'XP, bah, tu vas améliorer tes cartes et tu vas vraiment optimiser ton deck, et je pense que ça fait partie du plaisir du jeu, clairement.
Et donc, du coup, combien de temps, combien de séances pour écluser la campagne sous l'œil du dragon ?
Moi, je dirais entre 10 et 20. C'est effectivement à l'époque on l'avait joué en beaucoup plus longtemps, mais il y avait eu des circonvolutions. Enfin voilà, ça fait partie justement de ces choses qui à mon avis ne doivent pas être programmées et ne doivent pas être anticipées pour les futurs MJ et les futurs joueurs qui s'en empareront. Pour des groupes de joueurs qui iraient tout droit et qui feraient pas de détour, pas de quête secondaire, qui profiterait pas des différents environnements pour broder, et ben je dirais ouais, une dizaine de séances. 20 séances pour des gens qui tâtonneraient, et après on peut, je pense que s'il y a des gens qui veulent intégrer des scénarios secondaires à l'intérieur, c'est aussi possible, et ben ça peut monter jusqu'à 30 séances, je pense.
Ouais, donc ça fait une belle durée de jeu, ouais.
C'est une belle durée de jeu, ouais. Alors, il faut aussi savoir deux choses. C'est que premièrement, c'est une campagne d'initiation. C'est-à-dire que je pense que n'importe quel joueur peut rentrer dans cette campagne sans avoir aucune connaissance du monde de Max Brown, et à la sortie de la campagne, bah, il saura tout. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la campagne permet vraiment d'avoir un déroulé des secrets. Donc c'est pas là, c'est pas un jeu à secret où on va retenir nos chevaux et on va dire ouais, vous verrez ça dans un prochain supplément. Non, 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 non. Dans le livre de base, en fait, il y a tout pour jouer, de A à Z. Donc c'est peut-être un peu contre-productif, parce que ça voudrait dire qu'on n'est pas en train de développer un espèce de côté marketing, de d'hameçonnage marketing, mais je trouve que c'est d'une part assez honnête comme démarche. Et deuxièmement, ça ne nous empêchera pas de développer une gamme avec des scénarios, des choses qui, un monde qui évolue et des choses comme ça.
Ouais, effectivement, j'apprécie bien la démarche. Et puis, c'est vrai que quand on compare avec, je sais pas moi, par exemple, des PBTA, là, Powered by the Apocalypse, souvent on achète le jeu, on fait une campagne de entre 5 et 10 séances, et puis on range le bouquin sur l'étagère, et peut-être qu'on y rejouera dans quelques années, mais voilà. Là, on est quelque part... on peut être assuré déjà de quelque chose qui va tenir un bon moment, quoi.
Exactement. Sans compter que, ben, moi, je t'ai dit, j'ai fait 12 scénarios au Studio 4D2, donc c'est des scénarios qui sont sous forme de brouillon actuellement, mais qui pourraient tout à fait être maquettés et vendus en PDF. Donc voilà, ça fait une campagne Mastoc, il y a 12 scénarios potentiels. Il y a deux scénarios que j'ai retirés de la campagne parce que c'était des espèces de quêtes secondaires et que ça me semblait pas pertinent de les mettre. Mais par contre, c'est des choses qui pourraient être proposées en backing. D'ailleurs, c'est un palier, hein. Je crois qu'il y a un palier à 9 000 € qui propose un scénario en PDF gratuit, donc pour les souscripteurs, mais qui sera vendu plus tard. C'est bien ça, ouais, à 9 000. Donc ouais, du matériel de jeu, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et puis on pourra le débloquer. Bah voilà, là on propose de le mettre de l'offrir aux souscripteurs à 9 000 €, mais de toute façon, je pense qu'on le mettra après en vente pour n'importe qui. Hein.
Et alors donc ces actual play là que tu as enregistré chez 4D2, c'est donc pas la campagne qui est proposée. C'est des scénarios différents, c'est ça ?
Ouais, il y a 11 scénarios en one shot. Non, pas exactement. Il y a 8 scénarios en one shot. Il y a un scénario en 3 parties. Et il y a le premier épisode de la campagne Sous l'œil du dragon qu'on a joué samedi dernier, qui n'est pas encore monté, pas encore sur YouTube, mais il est encore visible sur Twitch.
Donc ça veut dire que si nos auditeurs sont pas complètement convaincus, mais ne veulent pas se spoiler la campagne, ils peuvent aller regarder un des scénarios one shot, du coup.
Clairement, il y a de quoi faire, hein. Il y a largement de quoi faire.
Ok. Et alors j'ai remarqué d'ailleurs sur ces actual plays, chez 4D2, ce que tu parlais tout à l'heure de point and click. Et ouais. C'est vraiment... alors, point and click, hein, pour nos auditeurs les plus jeunes, c'est un type de jeu... c'est pas parmi les premiers types de jeux, mais c'est quand même arrivé assez vite dès qu'il y a eu des ordinateurs. C'est des jeux où, globalement, on contrôlait un personnage et on pouvait... cliquer sur différents éléments du décor, éventuellement avec une palette de verbes, je sais pas, par exemple ouvrir, puis cliquer sur la porte, ça permettait d'ouvrir la porte, ce genre de choses-là. Et puis on avait aussi tout un inventaire où on pouvait utiliser le chewing-gum sur le clown qui rit, de façon à pouvoir récupérer sa boîte à rire et l'utiliser ensuite autre part, enfin bref, ce genre de scénario-là. Et comme ces jeux ont un certain âge, ils ont aussi une certaine esthétique, avec quand même beaucoup de pixels, parce que la résolution n'était pas fabuleuse sur les ordinateurs à l'époque. Et j'ai retrouvé ça dans les images qui sont utilisées pour illustrer, voire même pour animer, parfois c'est des images, enfin c'est des petites séquences animées, les actual plays sur 4D2. Est-ce que cette esthétique là, on la retrouve un petit peu dans la collection Max Brown, ou est-ce que c'était juste dans ces actuels plays-là qu'il y en a ?
Alors, il y a eu un gros débat au sein de la maison d'édition, parce qu'à la base, moi, je voulais vraiment faire une espèce de design, une maquette qui rappelait vraiment le point and click et qui serait en pixel art. Et finalement, c'est pas une idée qui a été retenue. Alors, Antoine était plutôt de mon côté, si ouais. Je me souviens bien, mais rétrospectivement, je pense que le choix était bon de faire comme on a fait Antoine. Mais par contre, il y a les reliquats de cette recherche. Il y a donc il existe un GIF animé et une image spécifique qui a été fait en pixel art. Et donc il y a que ça. Donc il y a une image qu'on va garder parce que je la trouve très bien, qui est en fait l'image du scénario Light City. Donc qui sont les premiers épisodes de la collection Max Brown. Je suis tout à fait en paix avec le fait que le bouquin en entier sera pas en pixel art, mais je veux pas pour autant renier cette recherche là qu'on a fait, parce que en termes de game design, il y a quelque chose. Je te dis, il y a quelque chose du terme de la sensation du point and click, et donc cette illustration là, je vais la garder, je pense, et puis on l'intégrera dans le bouquin.
Alors on a parlé là d'une inspiration jeu vidéo, mais si du coup le projet Max Brown était la réponse à un autre jeu de façon générale, même si peut-être que la réponse sera sur les jeux de rôle, ça serait une réponse à quel jeu ?
Waouh ! Alors là, j'ai envie de répondre plusieurs trucs. J'ai envie de répondre plusieurs trucs clairement. J'ai envie de répondre déjà le jeu Inscription, un jeu vidéo aussi, un jeu de vidéo de deck building complètement barré. Parce qu'en réalité, c'est un jeu c'est un jeu de cartes où tu commences à réunir ton deck, à l'améliorer, mais les cartes te parlent, c'est complètement halluciné, elles se disputent entre elles, à un moment donné, tu peux déchirer deux cartes et puis les recoller ensemble, les coudre ensemble, parce que c'est quelque chose de très organique. Et donc, c'est un jeu qui est assez fort émotionnellement et qui se veut assez anxiogène et dont les mécaniques sont hyper bien. C'est vraiment, c'est une expérience vraiment unique. Donc ça, clairement, c'était une inspiration. Et à quel jeu de rôle ça fait référence ? Ça, c'est une très bonne question aussi. Moi, j'aurais tendance à dire... Alors, les jeux d'horreur, les jeux horrifiques qui vont dans le même sens, il y a très clairement Cult, parce que c'est un jeu à secret, parce que c'est un jeu d'horreur. Alors après, il y a des différences fondamentales. Cult s'inspire vraiment de la mythologie judéo-chrétienne. Et dans la collection Max Brown, c'est plutôt une tentative de réunir, je dirais,
du syncrétisme.
Ouais, c'est du syncrétisme polythéiste un peu. On va plutôt chercher, même notamment du côté de la mythologie grecque, rien que tu vois dans le nom, le voile de Laërte.
Oui.
Il y a des concepts très... Il y a un concept qui s'appelle la barrière du Styx, les Prométhéens, c'est des choses, voilà, sans trop en dire, on est quand même très dans la mythologie grecque, en fait, et dans les mythologies polythéistes, de manière générale. Un autre jeu qui pourrait faire un lien, c'est Within. Within, qui est une espèce de boîte à outils d'horreur, donc un jeu écrit par Benoît Atinost, qui est un ouvrage fantastique en termes de maquette et en termes de fabrication. Et le jeu est très bien. J'aime pas trop le système de jeu, mais l'univers et puis ce que ça propose en fait en termes de boîte à outils, bah, c'est super. Alors moi, mon jeu vidéo de cœur en point and click, c'est Les Chevaliers de Baphomet et toute la série. Ça, c'est vraiment un truc, c'est ma Madeleine de Proust, quoi, vraiment.
Oui, alors du coup, je voudrais parler un petit peu du côté éditorial. Donc ton autre jeu publié payant, on va dire, donc Sorcière et Sortilège, c'était les éditions Stella Maris, qui sont un éditeur qui fait pas que du JDR, si je me trompe pas.
Tout à fait. Michel Chevalier fait aussi de la poésie.
Et donc maintenant, 2D sans face.
C'est pas tout. C'est pas tout. Il y a aussi 2 Architecture Art, avec lequel Guillaume Tavernier, donc l'éditeur 2 Architecture Art, à qui j'ai fait Rouge Flamme.
Ah.
Et l'Appel du Large aussi, de jeux.
Et donc, à chaque fois, comme tu disais tout à l'heure, donc c'était des éditeurs, enfin que t'es allé voir, enfin des maisons d'édition que t'es allé voir avec tes projets. Et là maintenant, si j'ai bien compris, tu es au sein de des Sans Face, mais il y a un côté qui est un peu de l'auto-édition. Enfin, comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu te vois ça, comment est-ce que tu te places en fait par rapport à tout ça?
Alors, ben, pour commencer, je ne le conseille à personne. Parce que quand on est auteur, c'est un jeu, c'est notre bébé et la charge émotionnelle est forte. Quand on est éditeur aussi et quand on est les deux, c'est pas x2, c'est au carré, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de l'exponentiel. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas d'être à la fois l'auteur et l'éditeur de son propre jeu. C'est trop, beaucoup trop intense. Après, c'est une expérience intéressante. Au terme technique, moi je viens du domaine de l'imprimerie, c'est dans mon métier principal, et donc là de passer de l'autre côté de la barrière un peu en quelque sorte et d'être gestionnaire de projet d'édition, et ben c'est quand même intéressant. Moi ce que je n'aime pas, c'est tout le côté financier et marketing. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Dire si je me retrouve dans l'écriture, c'est justement parce que moi je veux être seul devant mon PC. Oui. Bon, en fait, le contact avec le public, c'est pas que ça me terrifie, mais je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. Le fait de devoir dire aux gens, achetez mon jeu, il est bien. Enfin, je trouve que il y a quelque chose de, je pense manquer d'authenticité pour faire ce genre de démarche. Je suis obligé de le faire, et puis je trouve quand même que il y a des projets qui valent la peine qu'on se batte pour, mais c'est pas une démarche que j'apprécie. Je préfère. Je suis beaucoup plus à l'aise, tu vois, quand à Octogone ou dans les différentes conventions, je vais vers les gens avec la carte de mon site et je leur dis allez sur mon site, c'est génial, il y a plein de trucs gratuits à télécharger, vous allez vous amuser. Je suis beaucoup plus à l'aise en disant ça. Je trouve que c'est beaucoup plus authentique, et puis surtout je me fiche. De la conséquence, tu vois, il n'y a aucun enjeu, parce que moi je dis ça vraiment pour les gens, c'est gratuit, allez-y, téléchargez, puis il y a Via Fabula, il y a Smoking Blowers, il y a le kit de démo de Sorcière et Sortilège pour ceux qui ne sont pas intéressés à acheter le jeu, étant donné que c'est gratuit, il n'y a rien à perdre, donc moi je me ressens plus là-dedans, et c'est pas interdit que certains des scénarios de la collection Max Brand soient vendus, mais que d'autres soient gratuits en fait, ça c'est quelque chose avec lequel je me sentirais très à l'aise.
Mais alors du coup, qu'est-ce qui fait que, pour ce jeu-là spécifiquement, tu aies besoin de passer par une structure d'édition, de faire un jeu payant? Qu'est-ce qui le justifie? Enfin, je te demande pas de te justifier, mais qu'est-ce qui fait qui...
Qu'est-ce qui change?
Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que pour ce projet-là, ça fait sens de faire ça?
Bah parce que pour des petits jeux, tu vois, comme Via Fabula, qui a pour vocation d'être imprimé, c'est du print and play. Je pense que j'aime bien le print and play, ça a une espèce d'esthétique et ça, c'est intéressant. Sur mon site, il y a un jeu qui s'appelle Bref de Donjon, et c'est un mini donjon à imprimer et à plier soi-même. Je te recommande, Mathieu, d'aller juste jeter un œil. Si tu vas sur mon site, tu vas dans la partie téléchargement, et puis après la roue crantée jaune, qui s'appelle Terre de Légende. Et là, il y a un truc qui s'appelle Bref de Donjon, des aventures sur le pouce dans un donjon de poche. C'est un truc que tu imprimes, tu plies, tu découpes les figurines et tu joues dans un espèce de jeu d'arène. Et je trouve qu'il y a une forme d'esthétique, de pureté dans le print and play. Donc ça, c'est raison d'exister. Mais là, on voulait un exemplaire, on voulait un ouvrage physique, avec une couverture rigide, un objet physique. Vraiment, c'était... moi, c'est assez important pour moi, dans certains projets, d'aller dans quelque chose de concret, quoi. Surtout quand c'est un gros volume, parce que quand c'est un jeu à imprimer en une page, logistiquement on peut s'imaginer que les gens ils vont le faire, mais si c'est 250 pages, franchement je trouve que c'est irréaliste en fait.
Oui.
Tiens, c'est vrai que tu semblais pas connaître ni Rouge Flamme ni l'Appel du Large, et c'est aussi des jeux en fait dont je suis assez fier parce qu'il y a une mécanique, il y a à chaque fois des mécaniques assez intéressantes. Hein. Je te conseille de t'y intéresser. Rouge Flamme, c'est un jeu qu'on a fait avec Guillaume Tavernier parce que je lui avais proposé de faire un jeu de bataille narrative, c'est-à-dire au lieu, je suis pas satisfait des règles de bataille qu'il y a dans la plupart des jeux. Hein. J'ai Pandragon qui propose des règles, il y a Bloodlust qui propose des règles de bataille, il y a Kingmaker qui propose aussi des choses semblables pour Pathfinder, et je trouve que souvent c'est une usine à gaz, comme on dit en Suisse, c'est-à-dire que c'est beaucoup de G2D pour pas grand-chose. Avec Rouge Flamme, je voulais profiter du talent de dessinateur de Guillaume pour que lui dessine des scènes de bataille et des champs de bataille, et puis que moi je raconte une histoire par-dessus avec une mécanique de jeu assez originale qui permet de justement raconter une bataille comme si c'était un donjon, où chaque scène est comme une pièce d'un donjon, tu vois, avec des défis. Donc c'est un concept assez original, et puis je suis très fier de la campagne parce que là aussi il y a du sens, elle raconte quelque chose, il y a un déroulé, c'est une histoire de liberté d'une bande d'esclaves qui s'affranchit de leur chaîne et qui deviennent une puissance politique à l'échelle d'un royaume. Enfin, il y a quelque chose d'assez épique dont je suis assez fier. Et L'Appel du Large, c'est un tout petit scénario, c'est un petit livret de rien du tout qui est épuisé mais qui est trouvable maintenant en PDF. Et ça, en fait, l'histoire est jolie parce que c'est une histoire de recyclage. Guillaume avait des cartes qu'il avait fait imprimer sans réelle raison, et je lui ai dit, mais attends, faut qu'on en fasse quelque chose. J'ai créé un petit scénario en utilisant ce paquet de cartes pour décrire une contrée, parce que les cartes, quand elles sont étalées les unes à côté des autres, en fait, ça fait un dessin d'un paysage. Et en réalité, par le plus grand des hasards, Guillaume, il a reçu 200 retours des États-Unis de 200 paquets de cartes. Et donc, résultat, il a fait imprimer 200 livrets, puis on l'a vendu comme ça. Donc, c'est un joli recyclage, et je trouve que c'est assez chouette. Ouais. Puis, c'est un jeu très poétique. C'est un jeu inspiré des contes et légendes de sirènes bretonnes. C'est très poétique.
Et ben, ça donne envie d'aller découvrir tous les trucs que tu fais. Va falloir que je creuse.
Je conseille. Voilà, j'essaie de mettre du sens, j'essaie de mettre de la poésie, et de pas oublier que c'est quand même des jeux et que c'est fun, et que mais c'est pas parce que c'est fun que ça doit être idiot. En fait, là, je vais paraphraser Alexandre Astier. Hein, quand on crée du loisir et du loisir populaire, faut pas prendre les gens pour des cons. Faut leur proposer des choses qui soient fun, mais qui aussi entraînent à la réflexion, qui élèvent l'âme. Des choses. Enfin, là, je suis un peu prétentieux en disant ça. Faut essayer de le faire, en tout cas, c'est ça.
Tu disais tout à l'heure que tu étais dans le monde de l'imprimerie d'un point de vue professionnel. Comment est-ce que ça influence la façon dont tu vas penser à la matérialité de ton jeu quand justement tu penses à, je sais pas, l'encre à utiliser, le papier, le format, que sais-je?
Ouais, bon, là je me tourne généralement quand j'ai des soucis comme ça, je me tourne vers Antoine, je lui demande conseil parce que je comprends le langage des imprimeurs. Je suis offsetiste, donc l'imprimerie offset, je connais, je sais à quoi ressemble une encre offset, je sais à quoi ressemble une machine, comment ça se pilote. Mais les spécificités d'un projet de jeu de rôle, là, je suis débutant complet. Donc l'influence, ça m'aide à comprendre, mais j'ai quand même besoin de gens expérimentés pour m'expliquer comment faire. Et là, peut-être, je laisserai plutôt Antoine répondre sur c'est quoi les spécificités d'un jeu et à quoi il faut penser.
Pour le jeu de rôle dans ce genre de format, il faut, je pense, une reliure qui tient. C'est vraiment capital. Le format qu'on a adopté pour la collection Max Braun, c'est un format, je dirais, qui nous arrange bien, en fait. C'est un format plutôt agréable, c'est plus petit que A4. C'est un 19-27, mais c'est un format qu'on a hérité en fait de notre collaboration avec Ankama, où toutes leurs bandes dessinées en fait sont publiées à cette taille-là. Donc on avait travaillé avec eux pour Freak Squill. Et puis, je sais pas, moi j'ai vraiment kiffé le 19-27 comme il était là. Je trouvais que ça faisait un bon livre de base qui était à la fois juste assez grand pour faire des belles pages, des beaux spreads, vraiment montrer des choses. Et puis en même temps, on n'avait pas le problème qu'on a quand on a un pavé A4 de 1857 pages, hyper lourd, où on ne sait juste pas quoi en faire en fait. C'est beaucoup plus pratique. Donc le truc à garder à l'esprit pour moi, pour un livre de base, ce qui est important, c'est que le livre soit on revient sur le côté tactile, en fait, que le livre soit, qu'on puisse l'empoigner, qu'on puisse le tenir en main, qu'on puisse travailler avec, qu'on puisse interagir avec le livre, en fait, sans que on doit faire de la place sur la table, qu'on bouscule les personnes à côté dans le métro. Bon, là, si, quand même, c'est quand même un peu grand pour le métro, disons, mais c'est un peu moins un souci qu'un très grand format, quoi. Après, j'ajouterais peut-être un point encore. La reliure, c'est très important, donc, hein, on est bien d'accord, mais le papier aussi. C'est important, selon moi, de ne pas utiliser un papier trop rigide, parce que il y a des jeux, en fait, que je trouve esthétiquement super réussis, mais où quand je tourne les pages, j'ai l'impression de manipuler des planchettes, un peu. Et je trouve que ça casse le plaisir tactile qu'on a, en fait, à manipuler l'objet. Parce qu'on doit un peu se battre pour tourner la page, elle revient. Enfin, c'est, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Mathieu.
Ouais, je vois. Enfin, c'est, enfin, disons que c'est bien quand ça arrive pas, mais je dirais que c'est quelque chose qui devient presque invisible quand c'est bien fait, quoi, non?
Il faut que ça soit invisible, sinon c'est un problème. Non, mais je vais citer un autre exemple aussi en matière de papier qu'il faut éviter. Il y a des années de ça, mais littéralement plus de 20 ans, en fait, j'avais collaboré au travail sur Lioness, le premier jeu de rôle, en fait, qui a été basé sur cet univers, qui a été publié par une maison d'édition suisse, en fait. Et un des prérequis, une des demandes, en fait, qui a été faite par les porteurs du projet, c'était qu'il ne devait y avoir aucun effet de transparence sur le papier des pages. Donc, souvent, quand on prend un livre de base, qu'il est imprimé en noir blanc sur du papier offset, on va deviner légèrement qu'il y a du texte derrière ou une image ou quelque chose comme ça. Et pour les porteurs de projet, c'était un truc qui dérangeait vraiment beaucoup, en fait. Ils voulaient pas, ils trouvaient que non, ce qui était sur la page, c'était uniquement ce qui était devant nous et rien du tout, pas de profondeur, en fait, du papier, tout ça, c'était quelque chose qu'ils voulaient absolument exclure. Et l'imprimeur leur a refourgué, en fait, l'idée d'imprimer sur du papier couché. Et
qu'est-ce que c'est que le papier couché?
Alors, en termes techniques, je sais pas.
Vas-y, alors, un papier couché. Alors, il faut opposer finalement ce qui s'appelle un papier ouvert et un papier couché. C'est une histoire de porosité de surface. Le papier ouvert, c'est le papier que tu utilises pour ton imprimante. Il a les fibres apparentes. Un papier couché, il va avoir ce qu'on appelle un coating, c'est-à-dire on va appliquer une espèce de couche qui va lisser la surface et le toucher. Un papier de magazine, donc il va être de nature plus brillante et plus lisse. Et souvent, c'est des papiers qui sont plus lourds parce que le coating, ben, ça rajoute du poids.
Ok.
Donc voilà.
Je pense que ça suffit comme niveau technique. Merci.
Voilà.
Bah, à une époque, le type de coating qu'on utilisait, c'était de la craie, carrément. Ça rendait des livres d'art extrêmement lourds et compliqués à imprimer parce que ça absorbe l'encre, ça bouffe les couleurs, etc. Mais dans le cas de Lioness, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on se retrouve avec un papier qui est extrêmement lourd et qui fait que on se retrouve à la fin avec un livre de base qui est encore actuellement, 20 ans plus tard, un des livres de base de jeux de rôle francophones les plus lourds qui ait été imprimé. Il y a plus lourd encore, mais c'était quand même 1,450 kg, en fait, ce qui est...
Ah, ça commence à rentrer sur la table des armes couteaux-dentes,
là. Ouais, absolument, absolument. Et donc ça pour moi, j'ai aucun scrupule à le dire comme ça. J'espère que les porteurs de projets se reconnaîtront et que ça les vexera un peu et qu'ils viendront m'embêter, comme ça on pourra aller boire des bières. Mais sur le fond, j'ai toujours pensé que ça avait été une erreur, en fait, parce que ça rendait le livre extrêmement difficile à simplement ajouter dans son barda pour aller rejoindre une table de joueurs. Ça le rend... C'est comme si on se baladait avec une pierre tombale attachée autour du cou.
Le thème de la mort qui revient
le
encore
une fois. Le thème de la mort. Et où tout est écrit en doré, bien sûr, hein, c'est important.
Ce qui est hyper intéressant en fait dans le monde de l'imprimerie, c'est que on est limité par la technologie, c'est-à-dire que tu peux pas tout faire. Il y a des choses qui existent et il y a un catalogue de choses qui existent que tu dois choisir. Là, tu as parlé de la reliure, effectivement, sans rentrer dans les détails, mais tu as le choix finalement entre reliure carré collé, reliure dos cousu. Le papier, effectivement, tu choisis un grammage en grammes par mètre carré. Voilà, ça va de 60 grammes par mètre carré, qui est vraiment quelque chose, c'est du papier de Bible, quoi, à du 120-140 grammes par mètre carré. Après, au-delà de 140, ça commence à être du papier cartonné, ça, que ça ressemble plutôt à des couvertures, ouais, des couvertures, enfin, bah, vraiment, ouais, quelque chose de trop épais. Les encres, bah, après, on s'est pas trop intéressé à ça, Antoine, mais je pense pas qu'il y ait vraiment grosse différence. Dans le choix des encres, puis c'est les imprimeurs qui utilisent les encres qu'ils choisissent, donc là nous on n'a pas trop voix au chapitre.
Bon, on aurait pu insister pour avoir des encres bio ou des choses comme ça, parce que c'est aussi un discours qui est actuellement présent dans l'imprimerie.
Oui. Alors je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que là, c'est trop proche de mon métier.
Oui. Oui, puis on va vraiment diverger du sujet là. Mais et donc du coup pour la forme que vous envisagez du coup pour le projet Max Brown, donc t'as parlé Antoine du format.
Le livre tel qu'on l'a prévu, l'imprimeur nous a dit OK, il fera environ 800 grammes, un peu plus de 800 grammes. Voilà, c'est, je pense, c'est important de le noter. Donc 19-27, environ 250 pages, du papier qui n'est pas couché. Moi, je trouve ça important d'avoir un papier qui a de la texture et j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop brillant, donc un papier mat et donc un livre à 800 grammes.
Super. Donc transportable.
Exactement.
Ce qui est effectivement un gros avantage pour un livre de jeu de rôle. Et alors, après, sur votre fonctionnement interne chez 2D Sans Face, ou sur ce projet en particulier, je ne sais pas à quel point vous voulez répondre de façon générale, mais comment est-ce que vous interagissez au niveau conseil entre auteurs, éditeurs, et puis ensuite vers ce qui est graphisme, illustration, ce genre de choses-là, comment ça se passe ?
Ça dépend beaucoup des gens et des projets, je dirais. Le principe général, c'est que, en fait, la maison d'édition, elle est là pour nous permettre de publier des projets, de permettre de publier des jeux qu'on aime bien, avec sous une enseigne et puis un vernis d'officialité, en fait, qui est quand même important, en fait. Mais en vrai, derrière, on est une bande de potes. On travaille sur les projets qui nous amusent, sur des choses qui nous intéressent, plus ou moins en solitaire, en fait. Dans le cas de Stéphane Gallet, par exemple, Tigre Volant, l'édition qu'on avait publiée, il a porté tout ça par lui-même. Il est arrivé pratiquement avec un produit fini, en fait. Et les choses se sont passées comme ça. Il y a des projets qui ont été beaucoup plus collaboratifs, typiquement tout ce qu'on avait fait autour de Nightcrawler, c'était vraiment de longues équipes en fait, beaucoup d'équipes qui se sont relayées, même encore maintenant en fait, le projet n'est pas enterré, il y a des gens qui nous ont proposé des suppléments qui seront publiés, mais après, il faut voir aussi que, en ce qui me concerne, je suis dans 2D Sans Face pour ne pas collectionner les trains électriques, on va dire. c'est un hobby, hein. Faut pas non plus. Contrairement à Pierre qui voit ça comme une deuxième activité, moi j'ai vraiment plus un. Je me sens un peu plus dilettante sur plein de trucs. Alors, ce qui peut être un problème si on a besoin d'avoir un suivi beaucoup plus régulier, d'avoir quelque chose de plus carré, de plus cadré, comme une maison d'édition avec une structure plus traditionnelle. Je dirais que 2D Sans Face n'est probablement pas la maison qu'il faut pour ça. Ou on apporte une aide parce qu'on a quand même tous. En fait, ce qui est fort, c'est qu'à l'intérieur de la coopérative, sans qu'on soit vraiment tous directement concernés par le métier de l'imprimerie, le métier de l'édition, on a tous des trajets qui nous ont mis en contact avec des aspects différents, en fait, de l'édition, de la publication. Par exemple, Stéphane fait de la mise en page pour une ONG, en fait. Donc lui, son job, c'est de la mise en page. Il est capable d'écrire des kilomètres sur des sujets, enfin tout ça. Moi, mon métier, c'est l'informatique, mais dans ma famille, on a une longue histoire d'imprimerie. Mon grand-père était imprimeur. J'ai grandi au milieu des Heidelberg et puis des machines qui tapaient les bouquins, là. Et ma mère est typographe de métier, donc voilà, j'ai été contaminé aussi par cet aspect-là. Ben, Pierre travaille en fait dans les métiers de l'imprimerie. En fait, c'est vraiment, si on fait le tour, on se rend compte que tout le monde a un petit quelque chose à apporter, un bout de savoir, un peu de contribution qu'il prendra plaisir à partager, en fait. Et ça, je pense que c'est important. C'est important de souligner aussi par rapport à la, par rapport au rythme de parution, en fait, de dessin en face, parce que ça fonctionne aussi beaucoup à l'émulation. Pierre est arrivé avec un projet et un enthousiasme qui nous a manqué ces dernières années. Et ça me fait presque peur de le dire, mais je pense que nous allons rattraper notre retard dans le courant de l'année prochaine.
Oh.
Non, un truc qui est hyper important aussi à préciser, c'est que 2D Sans Face, ce n'est pas une maison d'édition avec une structure hiérarchique verticale, c'est une société coopérative. Et ça, je pense, ça a fait beaucoup pour l'identité de ce qu'on produit, en fait. C'est-à-dire que par société coopérative, j'entends, comme tu disais, Antoine, que on est tous un peu, on est les Avengers, en fait. Tu vois, chacun arrive avec ses univers, ses envies, et on s'entraide. Mais chacun est chef de projet de ses propres projets. Donc, ça a l'avantage d'avoir de laisser une liberté de création très très importante au chef de projet, mais ça a le désavantage d'avoir une j'ai envie de dire, c'est comme tout ce qui est démocratique à l'extrême, ça prend du temps, les choses sont discutées, il y a des consensus qui doivent se créer, il y a de la collégialité, on aime bien ce mot en Suisse, la collégialité, mais c'est une réalité, c'est une réalité au quotidien, et je trouve que c'est une vraie, ça on se retrouve ça dans la pratique de la démocratie suisse, la collégialité, c'est-à-dire que on fait en sorte que tout le monde ait eu son mot à dire à un moment donné dans le projet avant qu'il y ait une décision qui soit prise, et je trouve que c'est très sain. Alors ça prend du temps et des fois c'est frustrant de prendre du temps, mais c'est très sain.
Très très intéressant. Et en parlant de collégialité, d'œuvre collective, je vois là sur la page du projet que vous listez 4 personnes pour les illustrations.
Oui.
Comment, pourquoi ? C'est-à-dire, pourquoi 4 personnes différentes ? Et comment est-ce que vous arrivez à avoir du coup une unité, malgré tout, dans le projet, si c'est 4 personnes différentes qui font différentes illustrations?
Bah déjà, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire.
Oui.
Non, là, je provoque un peu. Non, c'est qu'en fait, les trucs sont imbriqués. Les illustrateurs font des travaux qui sont imbriqués. On a Valine Mathéis, donc, qui fait la superbe illustration de couverture. Jordan Jantès, qui va surtout se concentrer sur les maquettes. Philippe Rohrbach, qui nous a fait une super identité visuelle avec la recherche des couleurs, tout ça, c'était Philippe. Et Roy Sheen, donc Roy Sheen O'Toole, qui avait il y a longtemps donc fait des illustrations que j'ai reprises pour une version antérieure du projet. Moi, je travaille beaucoup avec des gens que j'aime et des gens que j'aime fréquenter, en fait. Le travail, c'est aussi une façon finalement de trouver des excuses pour fréquenter des gens que j'aime bien. Donc les 4 illustrateurs et illustratrices font partie des gens que j'aime beaucoup. Alors un peu moins pour Valine Mathéis, que je connais très peu parce que je l'ai jamais rencontré. Lui, je l'ai trouvé sur Instagram et on a beaucoup discuté de son art et je trouve qu'il est vraiment fantastique. Donc là, c'était vraiment un coup de cœur pur graphique, mais les 3 autres, c'est un coup de cœur humain et graphique. Jordan Jantès, c'est mon complice depuis toujours, c'est mon plus ancien ami. On se connaît depuis plus de 30 ans. On a une fille, les deux, qui ont le même âge. On a écrit déjà plusieurs fois ensemble. On a écrit un livre pour enfants ensemble. Et donc moi à l'écriture, lui au pinceau. Le livre s'appelle La Songe-mère. Il a été édité par l'Atelier Sémaphore, un éditeur suisse. Et puis voilà, c'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé. Et puis je reste comme... C'est du confort, quoi. On sait comment on travaille les uns les autres. Je sais exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin comme information et qu'est-ce qu'ils sont capables de produire comme résultat. Donc voilà pourquoi il y a 4 illustrateurs et illustratrices.
Oui, donc c'est pas une une équipe formée pour l'occasion. C'est comment dire
Non, c'est ma team.
C'est Ocean Eleven qui se rassemble, quoi.
Ah non, mais c'est ce que je te disais, on est les Avengers, hein. C'est-à-dire que moi, je fais appel à des gens dont je sais les compétences et la fiabilité, je sais ce qu'ils sont capables de produire en termes de dessin, et je sais exactement ce que je veux recevoir à la fin. Et surtout que là, en fait, il y a une vraie harmonie. Si tu regardes la maquette dans la page du financement, il y a un essai de maquette, et ben en fait en réalité quelqu'un s'occupe de la maquette, quelqu'un s'occupe de la couverture, il va y avoir des illustrations pleine page, mais voilà, c'est il y a quand même une espèce d'harmonie. Les informations, je les croise, hein, donc le code couleur utilisé pour tout le monde est le même. Tu vois, on est dans ce noir et or partout, donc il y a quand même une unité. Franchement, c'est une très bonne question, hein, mais je m'étais jamais vraiment fait souci de ça avant. Parce que de tout ce que j'ai sous les yeux actuellement, je vois que ça match, en fait. Puis les codes couleurs sont respectés, la charte graphique est unifiée, en fait. Ça, c'est l'avantage aussi de coordonner un peu tout, de centraliser la coordination un peu.
Et donc, avec ce souci du détail, parce que, effectivement, on peut pas forcément, pour vous discuter beaucoup avec des auteurs et autrices indés qui font ça dans leur coin, qui apprennent sur le tas et qui sont pas forcément dans les métiers de l'impression, du graphisme, etc. Bah, ça vient souvent un peu à la fin, quoi. Bon, alors au fait, on va illustrer ça comment Ah tiens, c'est pas mal tes illustrations. D'ailleurs, je me rends compte que tu utilises souvent les mêmes genres de couleurs. Alors, je vais peut-être mettre mon titre de la même couleur. Enfin, ça se construit. Ou même des fois, la question n'est pas posée et puis ça jure un peu. Hein, mais bon, tant pis. Hein, ça fait partie du caractère du truc, on va dire, quoi.
Non, mais alors là, encore une fois, on va rentrer un peu dans des termes techniques. Il y a ce qui s'appelle des PMS, donc des couleurs Pantone. Donc les couleurs ont des codes, et en fait les couleurs qu'on a sélectionnées, elles sont codifiées, et à tous les illustrateurs on leur dit, bah voilà, ça c'est la charte graphique, vous utilisez alors je me souviens plus exactement des couleurs utilisées, c'est un PMS.
T'as pas besoin de citer les codes, c'est bon.
mais tu vois, on leur a donné, voilà, c'est le PMS 112, c'est le PMS 446. On leur a donné aussi les codes en hexachromie, parce que selon le logiciel que tu utilises, bah, t'as pas toujours les mêmes trucs. Sur un ordinateur, tu vas avoir un code en RGB, en rouge, blanc, rouge, bleu, vert. Mm-hmm. Et un imprimeur, il va utiliser d'autres manières de parler de la couleur. Mais en tout cas, voilà, c'est, comme tu dis, ça aide d'être dans le métier, parce que comme ça, tu sais les contraintes techniques de ce que tu vas faire, quoi. Mais dans tous les cas, en étant novice dans l'édition de jeux de rôle, je trouve que c'est quand même impératif d'être entouré par quelqu'un qui a de l'expérience. Et là, moi, j'ai eu la chance d'être entouré par des gens qui ont de l'expérience. Donc, dans la gestion de projets d'impression, mais aussi dans le game design. Donc, je cite vraiment toutes les personnes qui ont participé au projet dans la page de financement. Et sans l'équipe, j'allais pas bien loin, quoi.
Eh bien, ça se sent. Quelques dernières questions sur justement cette page de financement participatif dont on parle. Qu'est-ce qui est financé par ce full lancement? Qu'est-ce que ça apporte, du coup, le fait de passer par un full lancement plutôt que d'autres moyens? Enfin.
Oui. Alors, qu'est-ce que ça apporte le financement par rapport à d'autres manières? C'est de la promo, tu vois. C'est vraiment le fait de, ça fait parler du jeu, donc ça fait des ventes, des préventes, donc c'est quand même quelque chose. C'est un peu le modèle classique. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de jeux de rôle qui se publient actuellement sans financement.
Il y a certains éditeurs encore qui font des préventes plutôt que des financements.
Ouais.
C'est-à-dire vrai qu'il faut avoir les fonds. C'est-à-dire que le jeu sera, enfin, à partir du moment où le projet est montré au vaste monde, on sait que le jeu sera imprimé, qu'il existera, mais ça permet de dimensionner le volume d'impression, quoi, typiquement. Mais c'est vrai que c'est rare. Ce qui arrive le plus souvent maintenant, c'est le financement participatif. Ouais.
Alors, je pense aussi Alors, je me souviens plus du nom de l'éditeur, mais il y a tous ces éditeurs, tous ces auteurs indépendants. Je pense à Vivien Féasson, qui a écrit Explorateur de Bruines, qui, en fait, publie à des tout petits volumes, puis c'est de l'auto-édition pure, et sans maison d'édition, sans financement participatif. Ils sont souvent à Octogone, ils ont des propositions ludiques qui sont incroyables.
Le rayon alternatif, le disclaimer, je fais partie du collectif.
Ouais, non, mais alors, moi, je trouve que c'est super tout ce qui est fait, et ça, c'est un autre modèle qui est justement, et qui est politiquement hors système, et je trouve que c'est très bien aussi. Hein. Je trouve que ce modèle-là, il doit perdurer aussi. C'est quelque chose dans lequel je pense, moi, je vais tôt ou tard me lancer aussi, parce que ça correspond un peu à mon envie de pas trop vouloir vendre mon âme au grand capital, tu vois.
De dés en face, ça a l'air d'être light quand même, comme diable, non?
Mais complètement. Non, 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 bien sûr. Non, non, mais c'est, en fait, je vise personne et aucune structure humaine ou sociale en disant le grand capital. C'est le concept même de devoir vendre et de devoir avoir une approche marketing qui me coûte. C'est pas, il y a, on subit tous ça, hein, en fait. Ta question portait aussi sur, sur le financement, sur à quoi ça sert, et sur quel est l'objectif.
Ouais.
Là, actuellement, le financement est lancé, effectivement, depuis le 13 septembre. On a passé la barre des 100% hier.
Yeah, bravo.
Ouais, merci beaucoup. Donc, le projet sera concrétiser, ça c'est sûr. Là maintenant, on est vraiment en train d'essayer de motiver les troupes en fait pour essayer de passer les paliers. C'est un succès modeste pour un projet modeste. Donc quelque part, faut rester humble. Et puis on est déjà moi je suis très content que le projet voit le jour. Je ne cracherai pas contre effectivement un peu plus de souscriptions pour pouvoir faire un livre encore plus beau. Néanmoins, effectivement, on est face à des machines de guerre qui sont effroyables. Hein. En face, il y a des éditeurs dont c'est carrément le métier principal. On a des jeux qui sont hyper gros vendeurs. Là, actuellement, on est tombé en plein milieu d'un gros morceau lancé par Arkane Asylum. Donc, tu as cité tout à l'heure Antoine qui est Broken Compass. C'est vrai que c'est compliqué de faire sa place face à des grosses machines de guerre comme ça. Le truc aussi, c'est que il n'y a pas de bonne période. Ça aussi, c'est peut-être un conseil à donner à des gens qui voudraient se lancer dans l'édition et dans le financement participatif. C'est fini, il n'y a plus de bonne période. Il y a tellement de projets qui se lancent toute l'année que la rentrée scolaire, c'est galère. Avant Noël, n'en parlons pas. Après Noël, les gens n'ont plus d'argent. En avril, c'est pareil, des embouteillages pas possibles. Au début de l'été, les gens s'apprêtent à partir en vacances. Pendant l'été, il n'y a personne. Donc, tu vois, tout est bloqué. Il faut accepter le fait que la production rôlistique est énorme et quelque part, finalement, on devrait s'en réjouir. On est en train de vivre un nouvel âge d'or du jeu de rôle, quelque part. Il n'y a jamais eu autant de jeux de rôle produits. Quelque part, c'est beau.
Ça, je suis pas certain. Je pense avoir lu quelque part qu'au début des années 80, c'était la folie furieuse à ce niveau-là. Mais je pourrais pas vraiment te contredire.
J'accepte volontiers. Là, c'est vraiment une perception personnelle. Je suis absolument pas documenté sur le sujet.
Mais je pense que ça fera un très beau mot de la fin qu'on est peut-être en plein dans un âge d'or du jeu de rôle. Ça tombe bien avec la charte graphique d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup pour ces. On avait dit une heure, on a fait deux. Tout va bien.
Ça va, on est dans les temps, c'est de l'ordre du raisonnable.
Tout à fait. Bah, merci pour cette interview qui est partie dans plein de sens auxquels je ne m'attendais pas du tout et j'espère que, et ma chers auditeurs, ça vous aura beaucoup plu. Bonne soirée.
Merci.
Bonne soirée et jouez bien.
Ah, le retour de la tradition.
Donc c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas, d'être à la fois l'auteur et l'éditeur de son propre jeu. C'est beaucoup trop intense. Beaucoup trop intense, pardon, j'ai fait une liaison dangereuse.